Vous avez tout à l'heure parlé de la discothèque de la Voix de l'Amérique. Est-ce que maintenant vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Oui, je crois que j'aimerais bien en parler un peu plus longuement, parce que la discothèque de la Voix de l'Amérique joue un rôle assez important dans les émissions musicales de la radio française. Dès 1945, la Voix de l'Amérique a commencé à créer une discothèque 11 bis rue Christophe-Colomb dans un local fourni par la radiodiffusion française. Je dois dire que dans ces mêmes locaux, en juin 1945, la Voix de l'Amérique avait fait construire un studio moderne où on pouvait enregistrer non seulement sur 78 tours, mais pour la première fois en Europe sur 33 tours. Studio qui a été baptisé, nommé le studio Franklin Delano Roosevelt par le ministre de la Communication française. Eh bien, dans cette discothèque, qui était une discothèque assez curieuse, on pouvait trouver surtout d'abord des séries de disques en 33 tours, préparé aux États-Unis pour les stations de radio américaines. Il y avait le Golden Gate Quartet, il y avait beaucoup de country music. Il n'y avait pas de jazz dans ces séries. Mais je dois dire que pendant quelque temps, la Voix de l'Amérique a eu l'autorisation d'enregistrer de merveilleux concerts radiophoniques. Duke Ellington, Woody Herman, beaucoup plus tard, Charlie Parker, et aussi des concerts symphoniques et même des enregistrements intégraux des opéras de la Metropolitan Opera à New York. Ces trésors étaient destinés à être utilisés par la radio française. En ce qui concerne Brother Gims, dont je viens de parler, il utilisait ce qu'il y avait comme jazz quand il y en avait de disponible, et parfois un peu de folklore. Je dois dire que un de mes meilleurs souvenirs de la discothèque et des Brother Gims concerne la visite du grand écrivain américain Gertrude Stein. Je l'ai rencontré dans la cour avec Brother, et Brother Gims m'a présenté au grand écrivain qu'il avait bien connu. Comme je vous ai dit, il avait vécu en France entre les deux guerres. Et j'ai demandé ce que Miss Stein faisait, et Brother a dit, oh, elle avait envie de monter dans notre discothèque, écouter des disques de Louis Armstrong. Alors, j'associe Gertrude Stein et Armstrong, je trouve ça très sympathique. Je voudrais ajouter un petit chapitre de l'histoire de la discothèque, très intéressant. Par la suite, Hugues Panassier, un grand spécialiste du jazz, a commencé, presque en même temps que moi, à faire une émission régulière à la radio française. Mais en 46, je crois que ça se passait après la mort de Brother, nous avons reçu des enregistrements sensationnels d'un concert de radio de Duke Ellington. Je tenais beaucoup que le public français puisse profiter de ces disques. Et j'ai proposé au directeur des programmes de la radiodiffusion française, mon ami Paul Gisson, de demander à Hugues Panassier si ça l'intéressait de diffuser ces disques de Duke Ellington. Et Panassier a accepté. Donc la première émission de Panassier, c'était une série d'émissions avec ces enregistrements complètement inédits de Duke Ellington à la radio. D'ailleurs, ça m'a valu un cadeau un peu plus tard d'un disque de d'un livre de Panassier qu'il a signé Satchmo Ing Yours, Hugues Panassier. Satchmo, comme vous savez, c'est un nom populaire donné à Louis Armstrong.
À l'époque, le problème quand même se posait de savoir quel type de musique de jazz on pouvait entendre et sur quels enregistrements on pouvait compter. Parce que il s'était produit aux États-Unis un certain nombre de choses, et en France, il y avait eu la coupure avec les États-Unis.
Oui, il y avait une curiosité énorme, difficile à satisfaire de la part des amateurs de jazz en France, en 1944-1945. Qu'est-ce qu'on a enregistré aux États-Unis? Quels sont les meilleurs disques récents? Eh bien, il n'y avait pas de meilleurs disques récents, car à partir de l'été 42 et jusqu'à la fin des 44, c'est-à-dire pendant 2 ans, les musiciens américains, non seulement les émissions de jazz, mais les émissions américains, ont été obligés de faire la grève de l'enregistrement. Il y a eu ce qu'on appelle le ban, l'interdiction d'enregistrer. Donc, aucun disque commercial n'existait pour nous aider à suivre ce qui se passait dans le monde du jazz aux États-Unis. Quand même, il y a eu les enregistrements, car les grands musiciens de jazz ont tous accepté d'enregistrer bénévolement les célèbres V-disques pour l'armée. Les disques, surtout utilisés par les nombreuses stations de radio créées par l'armée en Europe, j'ai bien connu les gens de la station American Forces Network, qu'on appelle AFN, AFN, dont le studio se trouvait rue François 1er. L'émetteur se trouvait à rue Malmaison. Ils étaient très sympathiques et ils m'ont fait pas mal de cadeaux de V-disques que j'allais utiliser un peu plus tard dans mes propres émissions. Avant la fermeture de la station, le 31 décembre 1946, je reviendrai à la fermeture de cette station. C'est une autre histoire qui concerne la naissance de Paris Inter en 1947 et aussi la naissance de mon émission Panorama Jazz en 1947. Donc, il faut conclure, la curiosité des amateurs de jazz français concerne les nouveautés de jazz ne pouvait pas du tout être satisfaite en 1944 et même pendant quelques temps en 1945. Après, donc,